des vrais malentendus. Il y a longtemps maintenant, ça fait plusieurs mois, j'ai abordé dans le cadre de la série sur l'épître aux Colossiens que je faisais, j'ai abordé un peu la thématique de l'occultisme parce qu'elle se présentait à moi dans cette épître. Et c'est une thématique que je dois maintenant travailler un peu plus en profondeur parce que je dois aborder ce thème lors d'une journée dédiée aux responsables de groupes de jeunes de notre fédération à la fin du mois d'août. Et on m'a demandé de parler de cette thématique de l'occultisme. Et précisément, dans cette thématique de l'occultisme, il peut y avoir de sacrés malentendus. C'est de ça dont je viens vous parler aujourd'hui. L'occultisme, ça provient d'une doctrine qu'on appelle l'ésotérisme. Et l'ésotérisme, c'est une doctrine vraiment de la confusion. Au cœur de cette doctrine, il y a un livre qui s'appelle « La table d'Émeraude » qui provient d'un, c'est difficile à dire comme ça d'ailleurs, parce que c'est un personnage mythologique qui s'appelle Hermès Trismégiste et qui serait l'auteur d'un corpus d'ouvrages qui pose les bases de la doctrine ésotérique et à partir desquelles s'appuient en fait les occultistes. Et dans cette table d'émeraude, on trouve le cœur de la doctrine qui dit ceci. Alors, il faut s'accrocher un peu, parce qu'à première lecture, on ne comprend rien, mais je vais vous le détailler un peu. Qui dit « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour que soit maintenu le principe de l'identité. » Ce que ça veut dire, c'est que tout est identique dans cette doctrine-là. Ce qui est en bas, c'est-à-dire la création, par exemple, est identique et comme ce qui est en haut, c'est-à-dire le créateur. Les différences n'existent pas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et c'est un principe général, en fait, tout se confond. Et notamment, il n'y a pas de différence entre la partie et l'ensemble, de telle sorte que un grand occultiste de la fin du 19e siècle qui s'appelle le docteur Gérard Ancos, qu'on appelle Papus aussi, va dire par exemple que connaître une cellule du corps humain, c'est connaître le mystère de Dieu tout entier. Il y en a d'autres, il y a des poètes notamment, il y a un poète qui disait que si vous étudiez le grain de sable, vous avez la connaissance de tout l'univers. Ça prend sa base dans la doctrine ésotérique dans laquelle tout se confond. Il y a une confusion entre le créateur et la créature. Il y a une confusion dans la notion de vérité. Il n'y a pas de vérité absolue. Il y a une confusion dans la notion de bien et de mal. Et il faut faire attention quand on est face à des gens qui trempent dans l'occultisme parce que, précisément, comme tout est confus, ils vous embrouillent. Ils vous embrouillent, ils peuvent vous parler de Dieu, ils peuvent vous parler de Jésus, de tout ce que vous voulez, mais ils mélangent tout ce discours pseudo-chrétien avec tout un tas de discours et de pratiques qui sont tout à fait contraires, voire même contradictoires, avec les implications concrètes d'une foi chrétienne authentique. Alors, une bonne nouvelle pour nous, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle en soi, mais en tout cas pour nous c'est une bonne nouvelle, c'est que les chrétiens du 1er siècle ont été confrontés à ce genre de personnes parce que l'ésotérisme, ce n'est pas quelque chose de nouveau, en fait. L'ésotérisme qu'on voit aujourd'hui, les pratiques occultes qu'on peut voir aujourd'hui ou dont on peut entendre parler autour de nous, sont une résurgence d'une doctrine ancienne, le gnosticisme, c'est l'équivalent. Gnosticisme ou ésotérisme, c'est la même chose, qui refait surface à mesure que le christianisme est mis en retrait. Donc on va voir comment ces chrétiens du 1er siècle s'y sont pris avec les personnes qu'ils ont pu croiser. Je vais proposer, je pense, 2 ou 3 prédications autour de cette thématique d'ici à ce que je parte en vacances au mois d'août. Et on va commencer avec celui qu'on appelle de manière un peu folklorique Simon le magicien. Simon le magicien, c'est rigolo, on imagine un prestidigitateur avec son chapeau, tout ça. Ce n'est pas tout à fait ça et c'est ce qu'on va voir. On va ouvrir nos Bibles dans le livre, enfin vous allez ouvrir vos Bibles parce que moi j'ai la mienne déjà ouverte, dans le livre des Actes, au chapitre 8, acte 8, et je vais lire des versets 5 à 25. Acte 8, à partir du verset 5. Et on voit cette rencontre ici avec Simon le magicien. Voilà ce qui nous est dit. Philippe, qui était descendu dans la ville de Samarie, y proclama le Christ. Les foules, d'un commun accord, s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et en voyant les signes qu'il produisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et d'infirmes furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un nommé Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, y exerçait la magie. Il stupéfiait le peuple de Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient « Cet homme-là est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande ». Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait longtemps stupéfiés par sa magie. Mais quand ils eurent cru Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils reçurent le baptême, hommes et femmes. Simon lui-même devint croyant et reçut le baptême. Il était assidu auprès de Philippe et voyait avec stupéfaction les signes et les grands miracles qui se produisaient. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, une fois descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car celui-ci n'était encore tombé sur aucun d'eux. Ils avaient seulement reçu le baptême pour le nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit « Donnez-moi aussi cette autorité, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent se perde avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. » Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Reviens donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, si c'est possible. Car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage et dit la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans de nombreux villages des Samaritains. Jusque-là, la lecture de la parole. Alors, on est en Samarie. Samarie, c'est un endroit un petit peu particulier, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est vraiment une terre de syncrétisme religieux qui est due à l'histoire du territoire d'Israël, avec notamment les invasions assyriennes et babyloniennes qui ont entraîné des déportations d'une partie de la population de la Samarie, et qui ont entraîné aussi, je dirais, l'arrivée de colons assyriens et babyloniens qui sont arrivés dans cette région avec leur propre culte, avec leurs propres idoles. Et en fait, en bonne partie, ces cultes et ces idoles ont été adoptés aussi par la population locale, tant et si bien que les Juifs des régions alentours regardent la Samarie d'un mauvais œil. Ils regardent la Samarie d'un mauvais œil parce qu'ils ont perdu, je dirais, cette pureté du culte rendu à l'unique vrai Dieu. Et donc, les Juifs les regardent vraiment comme des faux frères, quoi. C'est des faux frères. Au point qu'ils évitent de passer par la Samarie, ils évitent de traverser ce territoire, ils préfèrent faire des kilomètres à pied en plus, contournés par la Décapole, que de traverser cet endroit. Et on verra que ça a son importance dans la suite. On voit aussi donc ce fameux Simon. Et Simon, ce n'est pas juste un type lambda, un petit peu folklorique dans le paysage, qui fait des choses un peu étranges. Voilà. C'est plus que ça. En fait, Irénée de Lyon et Justin Martyr, qui sont deux pères de l'Église du IIe siècle, identifient cet homme dans leurs écrits comme l'initiateur d'un grand courant gnostique très influent. Justin Martyr indique que sa renommée se serait répandue jusqu'à Rome, où une statue aurait été rédigée à son nom sur une île du Tibre avec l'inscription « Simoni Deo Sancto », à Simon, Dieu Saint. Alors, il y a eu une statue qui a été retrouvée, puis l'inscription qui était dessus, ce n'était pas tout à fait celle-là, donc il y en a qui pensent que Justin Martyr s'est peut-être trompé, etc. Mais en tout cas, ce qu'on voit là, c'est que ces pères de l'Église du IIe siècle, eux ont considéré que c'était un personnage qui avait eu une grande influence. Donc ce n'est pas juste un original là-bas dans son coin de Samarie, c'est en fait une grande figure du gnosticisme, cet homme, autrement dit donc de l'ésotérisme. Et le texte nous le dit aussi en fait, puisqu'il nous dit « Simon stupéfiait le peuple de Samarie ». Il nous dit que les gens du plus petit jusqu'au plus grand disaient que cet homme-là était la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Voilà ce qu'on disait de Simon le magicien. Et donc dans notre récit, il se passe quand même un truc assez incroyable. On a Philippe qui arrive dans la ville de Samarie, qui prêche l'évangile, et en fait il fait ce qu'on est supposé faire, c'est-à-dire ce que Jésus a envoyé faire ses disciples, c'est-à-dire proclamer que le règne des cieux s'est approché, petit 1, et petit 2, en montrer les signes. Et donc, il y a des miracles qui arrivent, puisque Jésus a dit « proclamez que le règne des cieux s'est approché et guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons, ressuscitez les morts ». Et Simon, il voit ça. Il entend ça d'abord, il entend la proclamation de Philippe et puis il voit les signes qui accompagnent cette proclamation. Et en fait, j'ai envie de dire, il hallucine, quoi. En tout cas, il devient croyant, nous dit le texte, et il reçoit le baptême. Alors, c'est une conversion un peu surprenante, d'autant que ce qu'on voit après coup, finalement, c'est qu'il est quand même bien à côté de la plaque. Il est à côté de la plaque parce qu'au fond, il n'a pas changé de logiciel. Il n'a pas changé de logique intérieure. Et ça, c'est toujours une réalité aujourd'hui avec les personnes qui sont plongées dans l'ésotérisme et dans l'occultisme. L'occultisme, pour remettre un peu de définition dans les termes, l'occultisme, c'est la mise en pratique de la doctrine ésotérique. L'ésotérisme, c'est l'ensemble des croyances. Et l'occultisme, c'est la mise en pratique. Donc, c'est la voyance, la magie, toutes ces choses-là. Et ces personnes qui sont plongées dans l'occultisme peuvent exprimer en fait un intérêt très sincère pour Jésus, très vrai, très, très sincère, quoi. Ils peuvent fréquenter l'Église, ils peuvent utiliser un langage chrétien tout en ayant gardé leur ancienne manière de penser, leur ancienne grille de lecture. Elles ne changent pas toujours de logiciel. Alors, il ne faut pas porter un regard soupçonneux vers tous ceux qui sont passés par l'occultisme. Il y a d'authentiques conversions, évidemment. Il y a des gens qui se sont repentis et qui aujourd'hui sont évidemment d'authentiques chrétiens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir aussi ce truc d'adopter le langage chrétien, mais en fait de le revêtir d'un sens tout à fait différent. Parce qu'au lieu de se soumettre à Jésus-Christ, elles l'intègrent dans leur système de croyance. Et vous voyez là, Simon, alors que toute l'attention qui était sur lui, c'était un peu la star de la région, Simon, quand même, hein, toute l'attention qui était sur lui se reporte maintenant sur Philippe. Simon ne rejette pas Philippe. Il ne voit pas en Philippe un concurrent, il ne voit pas quelqu'un qui viendrait lui voler la vedette. Il ne voit pas non plus en lui quelqu'un qui viendrait remettre en cause ses propres croyances. Et c'est peut-être là que le bât blesse. Il y a un malentendu ici, visiblement. Lui, ce qu'il voit en Philippe, c'est un mage. Un mage qui est plus puissant que lui. Il voit en lui un maître. Simon, il est toujours dans cette logique de processus initiatique où les maîtres initient les disciples. Et vu les miracles opérés par Philippe, il reconnaît en Philippe quelqu'un qui est plus avancé que lui dans ce processus initiatique et donc quelqu'un qui va pouvoir lui ouvrir des perspectives nouvelles en termes de puissance et de pouvoirs occultes. Et c'est ce que les pères de l'Église comme Irénée dénoncent. En fait, Simon est considéré comme le père d'un mouvement hérétique qui n'a pas rejeté le vocabulaire chrétien, mais qui en a perverti profondément le sens et la logique profonde. Dans ce mouvement-là, on enseigne que le salut ne vient pas d'une repentance ni d'un sauveur, mais qu'il vient d'une connaissance secrète qu'on peut acquérir en s'approchant d'un maître qui va pouvoir nous le transmettre, en s'approchant d'un savoir ésotérique, c'est-à-dire un savoir caché et réservé à quelques-uns. Bref, Simon n'a rien compris. Et c'est cette confusion-là que l'Évangile devrait venir briser pour les gens qui sont plongés dans l'occultisme. Jésus n'est pas un avatar, Jésus n'est pas une entité supérieure qui va te permettre de gravir les échelons de ta quête spirituelle pour remonter vers la source divine par le biais d'initiations secrètes et de connaissances occultes. Jésus, c'est le sauveur, il vient te chercher dans ta misère, il le fait par grâce, parce qu'il est mort pour toi à la croix. Et il n'y a rien que tu puisses faire, rien que tu puisses apprendre pour te sauver toi-même. C'est son œuvre à lui, il t'a sauvé, cette œuvre elle est unique, elle est parfaite, cette œuvre elle est gratuite et elle ne requiert que ta foi en Jésus-Christ. Le truc c'est que cette confusion, on le voit aussi, elle n'apparaît pas tout de suite, pas de prime abord. Au début, quand on regarde Simon, visiblement c'est ce que ceux qui l'entouraient ont vu, ils ont vu un converti. Et cette confusion, elle va se révéler en fait un peu plus tard, au moment précis où Simon va assister à quelque chose qui va le fasciner. Et c'est à ce moment-là qu'en fait tout va basculer, c'est là qu'on va découvrir que le problème est bien plus profond qu'une simple erreur de vocabulaire ou qu'un petit malentendu sur les mots. Il y a chez Simon une captivité spirituelle qui réclame une délivrance en fait. Et ce moment, c'est quand Simon voit les apôtres imposer les mains aux gens qui sont là et que par cette imposition des mains, le Saint-Esprit est donné. À ce moment-là, Simon comprend quelque chose, seulement voilà, tout à son logiciel ésotérique, à nouveau, il comprend de travers. Alors, à sa décharge, je dois dire que c'est vrai qu'il y a quand même un truc un peu bizarre qui se passe dans ce texte. Parce qu'on voit là que de nombreux Samaritains ont reçu la parole de Philippe, on voit qu'ils sont devenus croyants, ils ont cru, ils se sont fait baptiser, et pourtant, le texte nous dit qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit-Saint. Et ça, c'est une bizarrerie. Mais il y a plus bizarre encore. Tout laisse à penser que pour qu'ils reçoivent l'Esprit-Saint, il faut l'imposition des mains. Et il y a plus bizarre encore. Pas n'importe quelle main, celle des apôtres venus de Jérusalem. Franchement, ça sort d'où ce truc ? C'est bizarre, c'est étrange. La Bible n'établit pas de lien entre la réception de l'Esprit-Saint et l'imposition des mains. En acte 2, il n'y a pas d'imposition des mains. Alors vous me direz, bon, c'était la première fois, évidemment. Très bien, mais en acte 10, non plus. Alors que Pierre prêche chez Corneille, il nous est dit dans le texte, en acte 10, 44, « L'Esprit-Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. » Et même Pierre est surpris, il dit, bah, « S'ils ont reçu l'Esprit-Saint, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les baptiser ?» Donc il n'y a pas non plus d'imposition des mains ici. En Éphésiens 1, verset 13, on lit « En lui, c'est-à-dire en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en lui, vous êtes venus à la foi et vous avez été scellés de l'Esprit-Saint qui avait été promis. » L'Esprit-Saint, il est en lien avec la foi qu'on place en Jésus-Christ. Il n'est pas en lien avec même le rite du baptême en tant que tel, ni avec l'imposition des mains en tant que tel. Il est en lien avec la foi qu'on place en Jésus-Christ. Alors, il y a un autre endroit où on voit une imposition des mains, c'est en acte 19, donc une imposition des mains pour recevoir l'Esprit-Saint, et c'est pour des croyants qui, eux, n'avaient même pas entendu parler d'un Esprit-Saint. Alors, du coup, Paul leur demande quel baptême vous avez reçu ? Et ils répondent, on a reçu le baptême de Jean. Et quand vous regardez la différence entre le baptême de Jean, que vous pouvez voir en Luc 3, verset 3, et le baptême au nom de Jésus-Christ, en acte 2, 38, ce que vous voyez, c'est que la différence, c'est précisément cette question de l'Esprit-Saint. En acte 2, 38, il est dit « Repentez-vous, que chacun reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don de l'Esprit-Saint. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Alors du coup, c'est quoi cette histoire d'imposition des mains ici en acte 8 ? Eh bien, pour ma part, je crois que c'est une exception et qu'elle a sa raison d'être, et je vais l'expliquer. Il faut se rappeler où on est. On est en Samarie. On est dans une région qui est séparée d'Israël, bien qu'en faisant partie, bien même qu'en étant au cœur en fait, du territoire d'Israël. Une région qui est particulièrement méprisée en fait, par les Juifs alentour. Et en fait, l'évangélisation commence par la Samarie parce que Dieu veut unir son peuple. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Ézéchiel, en Ézéchiel 37. Il dit « Je ferai d'eux », et il parle du peuple juif, « Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. » Et c'est pour ça que la propagation de l'Évangile, après démarrer par les Juifs, après avoir touché les Juifs, elle commence par la Samarie en premier lieu, avant de s'étendre au reste du monde. Parce qu'il faut, comme on l'a chanté ce matin, que le peuple de Dieu soit un. Dieu ne souhaite pas que la conversion des Samaritains soit décorrélée de celle des Juifs de Jérusalem. Il ne veut pas que dans cette guerre, on va dire, entre Juifs et Samaritains, il ne veut pas que cette guerre se poursuive dans l'Église naissante. Il ne veut pas d'une Église samaritaine qui vivrait à côté d'une Église juive. Et la venue des apôtres depuis Jérusalem, je crois qu'elle vient manifester ce fait. L'Église est une. C'est ce qu'on a chanté ce matin. L'Église est une. Il n'y a plus de barrière entre Juifs et Grecs. Il n'y a plus de barrière non plus entre Juifs et Samaritains. On est un seul peuple. Et ce qu'ils viennent dire, finalement, c'est que cet esprit qu'ils ont reçu, c'est le même que les Samaritains reçoivent. Pour le dire autrement, on peut dire que les chrétiens juifs de Jérusalem, par ce geste, reçoivent et adoubent pleinement les chrétiens samaritains comme d'authentiques frères et sœurs dans la foi. Il n'y a plus de mur de séparation entre eux. Ensemble, ils forment l'Église. Ils ont reçu un seul et même esprit. Et c'est pour les uns comme pour les autres un don qui vient de Dieu. Mais ce n'est pas ce que Simon voit. C'est pas ce que Simon voit, parce que Simon voit ce qui se passe à nouveau à travers son logiciel d'ésotériste. Il est dans sa logique à lui et il voit dans ce geste une transmission de pouvoir. Ce qu'il voit, ce n'est pas un don de Dieu. Ce qu'il voit, lui, c'est une technique, une pratique, une puissance qu'il peut apprendre à maîtriser à condition, petit un, d'en connaître le secret. Et pour ça, il a besoin de s'adresser à un mage plus fort que lui. Donc Philippe qui est là, et petit 2, d'en payer le prix. Et c'est pour ça qu'il vient avec de l'argent. Parce que dans l'ésotérisme, on est dans une logique transactionnelle. Rien n'est gratuit, même quand c'est gratuit. En fait, celui qui veut être initié doit donner pour pouvoir recevoir ce qu'il veut recevoir. Alors parfois, on donne de son argent, mais c'est vrai aussi que tous les occultistes ne vous font pas payer. Vous pouvez aller voir des voyantes qui, très généreusement, vous accueille gratuitement et vous demande rien en échange. Par contre, tous les occultistes vous demandent l'implication en fait, de votre personne. Alors parfois, c'est de manière explicite. On peut vous demander un objet ou plusieurs objets qui vont vous représenter. Et parfois, c'est de toute façon implicite, parce qu'en acceptant la médiation, vous donnez votre consentement spirituel. Vous dites que vous êtes d'accord avec ce qui va se passer. Vous êtes d'accord parce que vous voulez recevoir une réponse, une énergie, une révélation. Et vous le faites pour ça. Et au lieu de vous adresser à Dieu, vous vous adressez à un occultiste. Et donc là, Simon est dans la logique de l'occultisme. Pour lui, il existe des savoirs qui sont cachés, il existe des gestes qui sont efficaces pour eux-mêmes, il existe des intermédiaires puissants qui détiennent un accès à des forces invisibles. Quand Simon dit aux apôtres « Donnez-moi aussi ce pouvoir », il ne demande pas, évidemment, à vivre l'expérience du Saint-Esprit. Il ne demande pas à entrer dans cette relation personnelle avec Dieu. Il demande le contrôle d'une puissance. Il ne veut pas recevoir l'Esprit en tant que personne divine. Ce qu'il veut, c'est maîtriser un processus, une puissance. Il est dans une logique de magie. Simon ne voit pas Dieu comme un sauveur et comme un seigneur à qui se soumettre. Il le voit comme une puissance à maîtriser et à exploiter. Et cette erreur, elle est au cœur de tous les systèmes magiques. Dieu devient un moyen, il n'est pas une fin en soi pour lui-même. Alors, je pense que vous pouvez voir un peu les dérives qui peuvent poindre, même au sein des églises chrétiennes, même probablement dans nos propres cœurs à chacun, quand Dieu est présenté ou accueilli et compris pour nous-mêmes, comme par exemple un moyen de prospérité. Et en même temps, c'est vrai que Dieu guérit. C'est vrai qu'il y a des prodiges. En fait, c'est même ça qui a impressionné notre ami Simon. Il se passe des choses. Là où l'Esprit de Dieu arrive, il se passe des choses. Il a vu les signes et les prodiges qui accompagnaient la prédication de Philippe. Seulement, au lieu d'adorer le Dieu qui était derrière le prodige, lui, il s'est prosterné devant le prodige, devant la technique, devant le moyen. Et il a dit, c'est ça que je veux. C'est ce pouvoir-là que je veux. Seulement voilà, à travers Pierre, l'Esprit va mettre des mots sur ce qui se passe dans le cœur de Simon. Et ce qui va se révéler, ce n'est pas seulement une erreur de compréhension. En fait, c'est une opposition spirituelle profonde. C'est une captivité intérieure dont il ne va pas réussir à se défaire malgré l'opportunité qui lui est donnée. On va voir ça. Pierre lui dit « Que ton argent se perde avec toi, parce que ta pensée acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Reviens donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, si cela est possible, car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. » Alors, je ne sais pas comment vous parlez à vos amis, mais le moins qu'on puisse dire quand même, c'est qu'il est clair, Pierre. Il est assez clair dans son discours. Et regardez la réaction de Simon. Simon répond « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Et on se dit « Ah ben, il réagit quand même, il y a un truc là, il a compris quoi. Il a compris. » Mais non, relisez bien. Moi, je crois que dans sa tête, il est toujours devant des magiciens plus forts que lui. Ce qu'il leur dit, en gros, c'est « Faites vos incantations, faites vos prières, vous, pour empêcher que le mal ne m'atteigne. » Magie blanche et magie noire, quoi. Il n'est pas dans la repentance. La repentance, ce n'est pas ça. Il n'est pas non plus dans la relation avec le Seigneur. On l'invite à prier, il dit « Non, priez-vous. » Il ne dit pas « Seigneur, j'ai péché. » Ce n'est pas ça qu'il dit. Pourtant, Pierre l'invite à prier. Et au lieu de prier, lui, au lieu d'invoquer la grâce de Dieu sur sa propre vie, il demande à celui qu'il croit plus puissant que lui de prier pour lui. Et pourquoi ? Pour obtenir une protection, on est encore dans la logique de la magie. Qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Ce qui l'embête Simon, ce n'est pas ce qu'il a fait. Ce qui l'embête, c'est les conséquences, c'est ce qui risque de lui arriver. Simon n'a pas changé de logiciel. Simon le magicien est toujours dans sa logique de magicien. Alors vous me direz, nous, on est loin de tout ça. On est loin de tout ça. Et je serais tenté de dire la même chose avec vous, mais la vérité, la réalité, c'est qu'à chaque fois que je prêche sur le sujet ou que j'aborde cette question de l'occultisme, c'est systématique. J'ai toujours des réactions, des gens qui viennent me voir un peu plus tard, pas forcément à la fin du culte, mais un peu plus tard dans la semaine, par exemple, pour me dire « Oh, mais les guérisseurs, les coupeurs de feu, ils font rien de mal, ils font du bien. J'en connais même un qui a une statue de Jésus à l'entrée de chez lui. » Peut-être que c'est Dieu qui agit à travers lui. C'est ce dont je parlais au début, c'est ce règne de la confusion. Alors, il y a un truc très simple, je crois. Si ce guérisseur est chrétien, s'il prie Dieu le Père à voix haute, et non pas à voix basse, dans un coin discrètement, s'il prie devant vous, au nom de Jésus, de manière intelligible, par l'Esprit Saint, ben, ce n'est pas un guérisseur ni un coupeur de feu, c'est un chrétien. Et si ça marche, c'est parce qu'il a un charisme, il a reçu un charisme de guérison. Non pas pour qu'on s'extasie sur le charisme comme un pouvoir à obtenir, non pas pour qu'on s'extasie sur sa personne à lui, en mode « Oh, c'est trop fort ce qu'il fait », mais pour qu'on rende gloire à Dieu qui guérit. Maintenant, si cette personne, c'est un spécialiste, déjà il a un titre, il est guérisseur dans le coin, il est connu pour ça. S'il est du genre à être connu pour avoir des prières qui marchent à tous les coups parce qu'il a reçu un don de sa grand-mère, ben ce n'est pas un chrétien et son pouvoir ne vient pas de Dieu. C'est assez facile quand même, au niveau du discernement, il me semble que c'est assez simple. Pourquoi ça ne vient pas de Dieu ? Ben déjà parce que c'est un pouvoir. Les pouvoirs viennent d'en bas et ils s'acquièrent par un processus initiatique, par une transmission de maître à disciple. Dieu ne donne pas de pouvoir qui se transmette de maître à disciple. Ce qu'il donne, c'est des charismes qui viennent directement de lui, qui viennent d'en haut. Et un charisme, c'est une grâce. Ça veut dire que ça ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu qui guérit qui il veut, quand il veut, et qui parfois te fait la grâce à toi de passer par toi. Et ça ne fonctionne pas avec une formule apprise par cœur. Ça requiert en fait une totale dépendance à ce que Dieu veut, à ce qu'il demande. Ce n'est pas quelque chose de magique. Un chrétien, quand il agit dans l'obéissance à son Seigneur et il fait ce que le Seigneur lui demande. Alors, on a vu des chrétiens, c'est véridique ce que je vous dis, se noyer parce qu'ils voulaient marcher sur l'eau comme l'apôtre Pierre. Pierre, il est descendu de la barque par la foi, c'est vrai. Mais par la foi, en quoi, en fait ? Et c'est intéressant, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, quoi. Pourquoi est-ce que Pierre il peut marcher sur l'eau, puis moi j'ai la foi, quoi. Pourquoi je ne peux pas ? Pourquoi ça ne marche pas ? Il faut bien lire le texte. En fait, Pierre, il n'est pas fou. Avant de descendre, il a dit à Jésus, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que que j'aille vers toi sur l'eau. » Et Jésus a dit « Viens !» Et c'est parce que Jésus a dit « Viens !» que Pierre a pu marcher sur l'eau. Et ça, ce n'est pas un pouvoir. Ce n'est pas Pierre qui a le pouvoir de marcher sur l'eau. Ça, c'est un charisme, c'est une grâce que Jésus fait à Pierre à ce moment-là en lui disant « Ok, viens, tu vas pouvoir le faire sur ma parole, sur ma parole. » Et ce charisme, il n'a pas été donné à Pierre pour que les autres apôtres se disent « Oh, mais il est trop fort, Pierre. Regardez, il marche sur l'eau. Il est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. » Ce n'est pas ça la réaction des apôtres autour. Il n'a pas été non plus donné à Pierre pour qu'on se mette à l'appeler Pierre le magicien, Pierre le guérisseur. Non, il a été donné à Pierre pour que Jésus soit glorifié. Et c'est ce qui se passe dans ce texte. Alors maintenant, peut-être aussi que tu souffres toi-même dans ton corps, ton âme ou ton esprit. Et j'entends bien que quand on souffre, on cherche des solutions un peu tous azimuts parce qu'on a envie de sortir de cette souffrance et c'est bien légitime. Et la tentation peut être grande, je crois vraiment grande, d'aller les chercher de façon pragmatique là où ça semble efficace. Et en fait, les hôpitaux eux-mêmes nous envoient vers des guérisseurs, parfois. Pourquoi ? Mais parce que ça marche, en fait. Parce que ça marche. Ils ne savent pas comment ça marche, les médecins ne comprennent pas, mais ils le constatent et du coup, ils vous conseillent d'y aller. En vrai, je ne vais pas rentrer dans le détail là parce que sinon on repartirait pour une heure de prédication, mais en vrai, ça ne marche pas si bien que ça parce que le problème revient plus tard, soit sous la même forme, et du coup, vous êtes obligé de retourner chez le guérisseur, ce qui est bien pratique, soit sous une autre forme, mais c'est vrai que dans un premier temps, ça semble fonctionner. Et l'autre raison pour laquelle la tentation peut être grande, c'est que, comme chrétiens, je crois que nous avons un peu désinvesti aussi la dimension surnaturelle de la guérison. Pourquoi ? Ben justement parce que beaucoup l'investissent mal ou l'ont mal investi, un peu à la manière de Simon le magicien, ils ont voulu s'approprier le don de Dieu, et du coup, ben, il y a eu des abus, il y a eu des excès de zèle, il y a eu du coup des souffrances, des douleurs, des gens à qui on a annoncé des choses qui ne sont jamais arrivées parce qu'on l'a fait sans humilité. Alors, devant tout ça, devant des gens qui, finalement, quelque part, ont voulu marcher sur l'eau alors que Jésus n'avait rien demandé, on a reculé. Plutôt ne rien faire que de prendre le risque de faire n'importe quoi. C'est pas sûr que ce soit beaucoup plus juste. Je voulais vous donner le témoignage d'une femme de notre église, mais j'ai pas pu vérifier si elle me donnait l'autorisation. Mais il se passe des choses formidables chez nous. Alors je vais pas vous raconter, du coup je suis désolé, je vous donne juste le... Il s'est passé un truc génial et je peux pas vous le dire, mais croyez-moi, il s'est passé quelque chose de très beau. Quelqu'un qui effectivement a été guéri de manière miraculeuse, quoi, du jour au lendemain. Alors, évidemment, c'est une grâce quand ces choses-là arrivent. C'est une vraie grâce. Et c'est une grâce qui nous fait nous tourner vers Dieu pour l'adorer. En tout cas, vraiment, c'est ce que ça a produit chez moi, quoi. Quand on assiste à quelque chose comme ça, on se tourne vers Dieu, on lui dit « Waouh, merci Seigneur, parce qu'on a vraiment un Dieu merveilleux. » Alors, très humblement, et je vais terminer comme ça, en fait, hein, et sans promettre quoi que ce soit, justement parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend du Seigneur, je voudrais que vous sachiez qu'on peut vous recevoir si vous êtes dans des difficultés comme ça, si vous êtes dans des maladies d'ordre psychique, physique ou spirituel, on peut vous recevoir, on peut vous écouter dans ce que vous traversez. On peut aussi essayer de discerner ensemble ce que le Seigneur veut vous dire ou ce qu'il veut faire dans votre vie. Et on peut vous accompagner dans la prière. Pour ça, c'est simple, il suffit que vous veniez me voir, vous prenez rendez-vous avec moi et puis on avance ensemble. Pourquoi ? Parce qu'on est enfant de Dieu, on l'a dit, on a un papa qui prend soin de nous. Il veut prendre soin de nous. Et c'est le cas pour vous qui souffrez aussi. Je vais prier. Seigneur, dans tout ce que nous traversons, dans les joies comme dans les peines, dans les moments faciles comme dans les moments difficiles, nous voulons nous accrocher à toi. Nous voulons nous tourner vers toi parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, nous voulons te faire confiance. Et nous savons qu'il y a des voies détournées qui peuvent être très tentantes. C'est tout le drame du Jardin d'Éden, en fait. Il y a des voies détournées qui peuvent être très tentantes, particulièrement quand nous sommes éprouvés dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. On peut chercher le soulagement dans des voies qui, à très court terme, nous semblent être de bonnes solutions, mais qui s'avèrent absolument délétères à long terme. Seigneur, c'est vers toi et vers toi seul que nous voulons nous tourner. Nous voulons apprendre à te faire confiance. Nous voulons aussi apprendre à nous attacher à toi avant de nous attacher à tes bénédictions. Nous voulons te dire que nous savons que tu peux guérir, celui qui est dans la souffrance. Mais ce que nous voulons, c'est, comme Jésus l'a dit à Gethsémané, en fait, c'est que ta volonté se fasse dans nos vies et que ton nom soit glorifié dans nos vies. C'est ça qui nous importe. C'est ça qui nous importe avant tout le reste, avant notre propre guérison. Et en même temps, ce royaume des cieux que nous proclamons, Seigneur, nous savons que tu en fais advenir des signes ici-bas pour que nous puissions goûter les prémices de ce royaume qui est encore à venir. Et que parfois, dans ta grâce, tu permets une guérison. Tu permets que quelqu'un sorte de sa dépression. Tu permets que quelqu'un retrouve le chemin de la vie alors qu'il était enferré dans des chemins de mort. Tu le fais. Tu le fais par ta parole et nous y croyons, Seigneur, parce que nous le lisons dans ta parole et parce que nous le constatons autour de nous. Parce que tu l'as fait dans notre propre vie, Seigneur, quand nous sommes venus à toi, que nous nous sommes convertis, que nous avons répondu à ton appel, nous avons vu ce que tu as fait dans nos propres vies. Alors Seigneur, je veux te prier pour toutes les personnes qui sont en souffrance dans notre Église, d'une façon ou d'une autre, et qui peut-être pensent que, en fait, on ne propose rien ici pour ces souffrances-là, pour ces difficultés-là, et qui peut-être, du coup, sont tentées par ce que d'autres proposent, et qui semblent efficaces, qui semblent marcher, mais qui peut-être les entraînent dans des chemins qui ne sont pas bons, qui ne sont pas dans tes voies, parce que toi, tu nous demandes de ne pas fricoter avec le monde des ténèbres, avec le monde occulte. Seigneur, nous croyons que toi, tu offres des solutions, que tu offres des portes de sortie, que tu offres en tout cas des frères et des sœurs dans la foi pour porter ce fardeau ensemble. Seigneur, nous croyons que quand nous sommes réunis, tu es là, tu es au milieu de nous, tu nous aides à discerner ta voix, à entendre ce que tu veux faire dans la vie de ces personnes, et que ce fardeau qu'elles portent, d'abord nous le portons avec elles, mais surtout toi tu le portes aussi. Tu t'en intéresses beaucoup plus que nous, Seigneur. Seigneur, rends nos cœurs disponibles à celles et ceux qui souffrent autour de nous, et nous voulons vraiment être là avec elles dans le combat qu'elles mènent. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.